you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sappho, 19e, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Délicieuse.
Elle est plus que cela, Kotrowski. Elle est amoureuse de vous.
Elle ne l'est pas.
Je vous assure que si.
Mais je n'ai rien fait qui puisse lui laisser. Nous n'avons même pas abordé le sujet.
Vous l'aimez?
Oui, enfin, disons que je l'aime bien, mais...
Pas plus que cela.
Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Ce n'est qu'une enfant.
Mais qui croit que vous l'aimez?
Oh, non.
Je savais que vous ne l'aimiez pas.
Un de ses voyages à Paris, Jean est invité par les beaux-parents à une soirée. Là, il voit une femme qui lui semble de toute beauté. Elle est grande, mince, avec de belles formes, des cheveux qui ondulent et qui descendent jusqu'au dos, et a un regard éclatant, avec une peau blanche et de mains d'immenses yeux bleus, les lèvres sensuelles, le visage d'une très grande beauté. Elle porte une robe noire. Il est ébloui par cette femme et passe des heures à la regarder. Venir, aller, danser. Il veut absolument savoir qui elle est, mais ne sait comment faire. Les heures passent, il en est malade, la gorge serrée, tendue. Il a vraiment le coup de foudre, comme l'on dirait de nos jours. Enfin, il ose demander à son beau-père qui elle est.
Qui est cette rousse? Elle me rappelle une de mes clientes.
C'est Madame Charlotte Péricole. Venez, je vais vous présenter.
Dit son beau-père, tremblant, ayant peur que ça se voie. Le beau-père lui dit,
Madame, permettez-moi de vous présenter mon gendre, Monsieur Jean Dupré.
Enchanté. Madame, il me semble vous connaître. N'êtes-vous pas à la vente des Degas?
Non, monsieur, je ne vais jamais dans les salles de vente.
Ah, pourquoi, madame?
Parce que je n'ai rien à vendre ou à acheter.
Le beau-père se retire.
Je vous laisse.
Je suis veuve, monsieur, et mon mari m'a laissé que peu de choses.
Oh, madame,
elle soupire. Et oui, il était plus vieux de moi que de 20 ans et jouait beaucoup. Moi, je ne suis issu que d'une vieille famille aristocratique sans grande fortune. Alors, comme vous voyez, je n'ai rien.
Vous avez votre beauté, madame.
Merci, monsieur. Mais cela n'aide pas à payer les créanciers. Mais ne parlons plus de tout ceci. Faites-moi donc danser. Je ne suis plus en deuil depuis 3 mois et la danse, j'en ai besoin pour oublier.
Je suis à votre service, madame. Et l'amène danser.
Elle lui dit en dansant,
ne parlons plus de toute la soirée, de choses agréables.
Je vous le promets. Il est pris par la beauté, ce visage si près de lui, les cheveux qui le frôlent, son odeur, son corps, tout l'enivre. Absolument tout. Passent toute la soirée ensemble à discuter, danser.
Ah, enfin te voilà. Ta mère vient d'arriver à l'instant. Elle t'attend dans la salle à manger.
Kitty, je vais la rejoindre. Puis-je te parler, Kitty?
Pas demain, nous avions prévu de faire des tas de choses.
Une autre fois, peut-être. Écoute, Dolly, je ne peux pas rester. J'ai gâché.
Puis, il la raccompagne jusque vers chez elle. Un immeuble qui a été beau, mais qui se dégrade. Son dit au revoir sur le trottoir en se promettant de se revoir. Il est fou d'elle. Lorsqu'il retourne chez lui, il voit sa femme, cette chose grosse, molle, qui ne pense qu'à acheter des bijoux et à faire des saletés avec sa sœur à lui. Cette chose dolente, qui passe des journées au lit, à manger des bonbons et à caresser sa sœur. Il en est dégoûté et se dit que ce n'est qu'un tas de chair immonde, molle, dégoulinante, vicieuse, dépensière. Et à Paris, là-bas, Charlotte, belle, douce, jeune, femme jusqu'au bout des ongles, avec sa grâce, sa beauté, ses cheveux, il ne rêve que d'elle. Il retourne souvent à Paris et la revoit. Que nul ne pense qu'à elle, à chaque fois qu'il voit quelque chose, cela le lui rappelle. Ce qui fait qu'il lui achète des bijoux, robes, la met chez elle, lui achète à son nom, à elle, un appartement boulevard Saint-Honoré, un 4 pièces cuisine dans un immeuble neuf. La meuble et lui trouve une bonne, tout à ses frais. Elle se laisse faire. Et fait celle qui ne comprend pas. Elle le traite comme un ami, car elle joue l'innocente avec lui et ne lui a rien donné. Cela l'excite encore plus, amplifie son amour et le rend aveugle. C'est ce qu'elle veut. En réalité, le pauvre, il est tombé amoureux d'une professionnelle, d'une mondaine. Le temps passe. Une double vie, cela coûte très cher. Il rêve de quitter sa femme. Ou qu'elle meure. Mais sa femme a ses biens en propre. Mariage par contrat.
un soir qu'il est chez Charlotte au salon, elle lui dit
« Je vais bientôt être obligé de quitter Paris. »
Cette nouvelle lui fait du mal. « Partez combien, pour combien de temps ?»«
Peut-être pour toujours. J'ai un ami de mon mari qui m'a demandé en mariage et veut que nous habitions chez lui en Écosse. »
« Vous allez vous marier ?»«
Il faut bien, hélas. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. »
« Mais moi ?»«
Vous m'êtes très cher, mais je ne peux pas vivre toujours avec un ami. Il me faut un mari. »«
Je ne peux pas que vous vous mariez. »«
Ne soyez pas idiot. »«
Je vous aime. »«
Moi aussi. Je vous aime bien, mais je dois penser à mon avenir. »« Si vous n'étiez pas marié, je ne dirais pas non. »«
Je divorcerai. »
Il ne faut pas rêver. Vous voulez boire ?
Non, merci. Elle se sert un verre de bourbon. Je me libérerai, je vous le jure, et nous vivrons ensemble. Attendez un peu, ne partez pas tout de suite.
Je n'attendrai pas longtemps.
Il est sorti de chez Charlotte, effondré. Arrivé au pays de Lyon, il est prêt à demander le divorce. Elle est dans sa chambre. Comme d'habitude, ses grosses bonbonnes. Il vient à peine d'arriver, d'enlever ses habits de voyage. Il veut frapper à sa chambre. C'est sa sœur qui lui a ouvert.
Vous, mon frère ?
Oui. Elle est devenue une femme sèche, à tête de cheval, une vraie vieille fille, mais habillée d'une robe d'intérieur rouge et avec de gros bijoux énormes en or, genre de bijoux que portent les femmes arabes. Elle s'est mise un turban rouge aux cheveux, un squelette avec des bijoux et tissus. Il la trouve ridicule et a envie de la gifler. J'ai parlé à ma femme. Pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît ? Elle les laisse. La chambre est devenue une chose des mille et une nuits, avec des tissus, des voiles de partout. Elle est allongée sur le lit, ou plutôt avachie, un gros sac de tulle rose, avec une tête énorme, maquillée à l'extrême, des cheveux bouclés, des boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues à tous les doigts. Madame fume, et lorsqu'elle ne fume pas, elle a près d'elle une boîte de friandises. Madame est devenue intellectuelle. Elle lit des poèmes et s'intéresse au ballet. Il est dégoûté par tout ça.
J'ai à vous parler.
Je vous écoute.
Voilà, il n'y a plus rien de commun entre nous et la plupart du temps nous ne vivons pas ensemble. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous séparions. Demandons le divorce.
Non.
Pourquoi ?
Parce que je ne veux pas, je suis très bien ainsi.
Il est furieux. « Mais moi, non, et je veux divorcer. »«
Vous ne pouvez pas. »«
J'écrirai au pape, et j'aurai rien de cause. Tout le monde connaît votre conduite. »«
Je refuserai le divorce. »«
C'est votre dernier mot ?»«
Oui. »
Il quitte la pièce en courant.
fois dans sa chambre, furieux, il fait les 100 pas et se dit « Pour me défaire de son entrave, je la tuerai s'il le faut. » Il est furieux, car il a peur que l'autre quitte la France et qu'il ne la voie plus. Ses pensées divaguent, il est prêt à toutes les folies. Il reste des jours à broyer du noir. Sa femme est dans la sienne, à faire des mamours à sa belle-sœur. Depuis ces années qu'elle se caresse et que le temps les a changées, elle devrait être assouvie de son ami. Mais non, car elle n'a connu que le plaisir avec elle et sa belle-sœur est devenue pour elle ce plaisir. Elle fait partie de son corps et c'est un peu comme si elle se masturbait toute seule. Et son ami serait son organe avec qui elle se touche. Dans ces conditions, qu'importe le physique, que le physique change, le plaisir de masturbatoire reste presque inchangé. Un jour, ils reçoivent une invitation pour une soirée chez des voisins. Ils sont obligés d'y aller car ce sont des gens influents dans le pays. Françoise, après avoir rechigné, protesté, accepte de se préparer pour y aller. Elle passe toute la journée dans sa chambre à choisir une robe, des bijoux, à prendre un bain, se maquiller. Enfin, à 20h, elle sort. En robe du soir or, pleine de bijoux, maquillée d'une façon outrancière. Elle a des difficultés à marcher, ses jambes ont de la peine à la porter, tremblante et lourde. Elle souffle. Son mari, qui l'attendait dans le couloir, la prend par le bras et l'amène vers les escaliers. Les escaliers lui donnent le vertige à Françoise. Elle se sent mal, en équilibre, se tient à la rampe et s'accroche à son mari. Lui la regarde, voit cette grosse chose tremblante, mal en équilibre, il se dit.
Et dire que je suis tributaire de ça, il suffirait de peu pour que je sois libre.
Il la lâche. Se tourne derrière elle, la voit toute tremblante, mal en l'équilibre,
un rien, et je suis libre.
Il tend la main, la pose sur l'épaule, elle tangue en avant, plein l'équilibre, et tombe comme une boule en bas. Ne se relève pas. Il descend vers elle, se penche. Elle est tombée sur le dos, les jambes et les bras écartés. Il la retourne. Elle est morte sur le coup.
Je suis libre. Un petit geste et c'est tout. Il suffit de peu de choses pour être heureux.
Et riant lui-même. Thank you.
Il a fait venir le médecin qui a demandé comment cela s'était passé. Tout en l'examinant, la morte à terre.
Nous descendions les escaliers et a perdu l'équilibre.
Le médecin, après avoir donné l'idée, lui dit
« Oui, elle est morte d'une chute. Elle était trop grosse et ne se tenait plus sur ses jambes. Je disais bien de moins manger. De toute façon, son corps aurait été étouffé par la graisse. »
Pour l'enterrement, on a fait venir Patrick. Les gens du village, qui ne le voyaient plus, sont surpris par sa beauté. Mais il est entré insigneusement dans la tête des gens que l'enfant est idiot et que c'est pour cela qu'on le laisse à l'écart. Les gens ont oublié le régisseur et la haine de son beau-père. Ils ne se souviennent plus qu'à cette époque-là, tous trouvèrent l'enfant normal. Tout de suite après l'enterrement, l'enfant est ramené chez Thibault. Le soir, lorsque les invités sont partis, le frère et la sœur sont ensemble au salon, assis devant un bon feu de cheminée. Jean est tout excité et fier. Il dit à sa sœur
« Me voilà enfin libre. Ouf !»
Sa sœur le regarde.
« La façon dont tu parles, on dirait que tu l'as tué. »
Elle regarde sa sœur et lui dit
« Mais je n'ai fait que lui donner un petit coup à l'épaule et hop !» Et s'est mise à rouler. Je suis heureux, tu sais, et ceci grâce à toi. Si tu ne t'étais pas occupé d'elle, durant toutes ces années, elle ne serait pas devenue ce qu'elle était. Et c'est ce qu'elle est devenue qui l'a tuée. Je te remercie. Je serai récompensé, tu sais.
Tu oublies peut-être une chose, c'est que je l'aimais.
Toi, aimais ça?
Oui. J'ai passé la plupart de mon temps avec elle. Plus avec elle qu'avec aucun autre. Ce que j'ai fait avec elle, personne ne le fera avec moi. C'est toute une partie de ma vie qui s'achève. À la minute où elle est morte, je suis devenue une vieille femme, incapable d'apporter du désir aux autres. Que vais-je devenir maintenant?
Son frère lui dit.
Ne t'en fais pas, je saurais te remercier. Tu as encore de belles années devant toi.
Il lui dit, pourquoi faire? Pourquoi as-tu fait cela?
Il se cale bien dans un fauteuil et lui dit,
à Paris, j'ai rencontré une femme que j'aime comme un fou, si tu la voyais.
Je ne la vois pas et je ne veux pas la voir. Je crois que je vais me retirer du monde.
Son frère la regarde et lui dit.
C'est cela, oui. Il y a de belles novices dans les couvents.
Elle ne répond pas. semaines plus tard, Jean part pour Paris voir Charlotte. Il lui avait envoyé une lettre lui annonçant la mort de sa femme. Il a sonné. C'est la bonne qui l'a ouverte.
Bonjour, madame est là.
Attendez, monsieur, je vais voir. Elle le laisse sur le palier et va voir. Puis revient. Vous pouvez entrer. Il entre, heureux. La bonne le mène au salon. Elle le laisse. La porte s'est ouverte. C'est Charlotte. Elle est en robe d'intérieur bleu pâle. Il sourit. Elle lui dit « Tu es là, mais je t'attendais pas si vite. » Il se penche pour l'embrasser. Elle se laisse à peine effleurer la joue. Elle lui dit « Eh bien, assieds-toi. » Il va s'asseoir sur un bridge et elle sur l'autre. Elle semble distraite. Il lui dit
« Voilà, je suis libre. Nous pouvons nous marier dans 6 mois. »«
Merci, mais moi, je n'ai pas changé de mes projets. Je t'ai dit que je partais en Écosse avec une personne qui veut m'épouser. »
Il descend de haut et lui dit
« Oui, mais maintenant, je suis libre. »
Elle lui dit
« Peut-être bien, mais moi, je ne le suis plus. »
Il soupire. Se lève et fait les 100 pas.
Quand je pense que j'ai fait ça pour toi, d'une façon dégagée, comme si c'était une vieille affaire,
elle lui dit
ne sois pas triste, grâce à moi tu es libre, tu n'as plus de femme.
C'est ça, ma vie est gâchée.
Elle lui dit
ta vie aurait été gâchée avec moi. Je me suis renseigné avec ce que tu as. En vivant avec moi, tu en aurais eu pour 6 mois et tu aurais été ruiné. N'oublie pas, une chose, c'est que tu vivais grâce à la fortune de ta femme. Maintenant elle est morte, il te faut trouver autre chose.
Il est furieux, déçu, et lui dit
« D'après toi, notre histoire, c'est qu'une vulgaire histoire d'argent. »
Elle lui dit « Eh oui, que veux-tu ? Il faut être réaliste. Moi, je le suis. Comme tu es naïf. Tu croyais que l'on pouvait divorcer comme ça. Tu ne sais pas qu'en France, on ne peut pas. »
Il lui dit
« Oh, arrête, je t'en prie. »
Et si tu veux voir la vérité en face, mon pauvre Jean, tu n'as plus 20 ans, mon ami. Il faut te réveiller. Regarde-toi dans une glace. Et choisis plutôt une femme de ton âge pour refaire ta vie. Quant à moi, les hommes plus vieux, j'en ai déjà eu un. Cela me suffit.
Il étouffe. Il n'en peut plus.
Il sort de la pièce en courant. Dehors, il fait nuit. Décide de marcher au hasard dans les rues. Passe la nuit dans des bars à boire. Il revient chez lui, épuisé, dégoûté. Sa sœur lui dit qu'elle le quitte.
Et où vas-tu? Pourquoi? Quand? Comment?
Je vais chez les sœurs de Rosaire. J'y aurai ma chambre. J'y serai très heureuse.
Eh bien, vas-y!
Il la quitte en claquant la porte. Deux jours plus tard, la sœur est partie. Jean reste enfermé au château, boit beaucoup, crie après les domestiques. Patrick n'a pas eu de chagrin par la mort de sa mère. Elle lui était indifférente. Les jours passent. Il est toujours maltraité, vu que c'est le beau-père qui commande. À force qu'on dise aux gens qu'il est idiot, ils le voient idiot. Donne à faire les travaux les plus ingrats. Les paysans en profitent, vu que c'est le maître qui leur a donné une bête de somme. Lui, par fierté, pour montrer qu'il est en dessus d'eux, il ne bronche pas, il fait tout ce qu'on lui dit. Changer la litière, traire les vaches, scier le bois, faire les foins, le fumier, etc., etc. Les paysans lui parlent comme si c'était un simple d'esprit qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. Et parce qu'il ne comprend pas, on peut lui dire les pires méchancetés. Lui ne bronche pas. Il sait qu'un jour, ce sera à lui de les faire marcher. Il n'a aucun ami ni fille et s'écarte de lui en le voyant ou le traite d'idiot. Mais il sent leur regard et sait que certaines aimeraient bien aller avec lui dans le foin. Lui, malgré les miques, fait celui qui ne comprend pas par fierté. Cela lui manque de n'avoir pas d'amis ou de petites fiancées. Mais il se dit qu'ils ne méritent pas qu'ils s'abaissent jusqu'à eux ou elles. Il se masturbe tous les soirs en pensant à rien. Il vit toujours chez les Thibault, qui boivent toujours autant. La nuit dans sa chambre, il lit. La vie est comme celle d'un prisonnier qui vit seul, entouré de gens. Il passe des semaines sans dire un mot. Alors pour entendre sa voix,
Il va s'enfoncer dans les bois et hurler sa haine. Le temps passe. Jean est devenu taciturne. Il sort pas du château. À chaque fois qu'il voit Patrick, une haine immense le prend. Il a dans la tête que tous ses malheurs viennent de lui. Il porte toute sa hargne, sa haine sur lui. La personne d'autre surtout sur qui l'a porté. Tous les autres sont morts ou partis. Lui seul est resté. Et la vue du jeune homme le nargue malgré lui. Car Patrick ne fait pas attention à son beau-père, il l'ignore. De jour en jour, la haine de Patrick grandit. L'inactivité, la solitude, le vide, il ne reste que cela pour prouver à Jean qu'il existe. Et vous, Patrick, qui voulait ignorer Jean, son beau-père, à force de se sentir épié par lui, se met à le haïr, lui aussi. Un jour, Jean voit Patrick vers la mare, le regarde bien, le voit prendre, penché vers l'eau, pour tirer un nénuphar à lui. Jean s'avance vers lui et le pousse à l'eau. Puis se sauve en courant. Patrick remonte à la surface, mouillé. Il est fou. S'il a cru me noyer, moi qui sais nager comme un poisson. Un autre jour, Jean, à cheval, fonce sur lui et le fait tomber en terre, puis s'éloigne. Patrick ne bronche pas. Pour lui, c'est un pauvre homme, une bête. Il le dédaigne et ne parle à personne de ses attaques. De toute façon, on le prendrait pour un idiot.
fin de journée, Patrick range le foin dans la grange. Il est seul, travaille sans relâche et vite, sans s'occuper de rien. Il est en sueur, mais cela lui fait du bien de s'épuiser au travail, comme cela la nuit, il pourra dormir. Une main jette sur le foin une lanterne ouverte. Ça prend feu. Et on essaie de le pousser dans le foin, en feu. Mais il résiste. Et se retourne, voit son beau-père sur lui. Ils se battent comme des bêtes. Le beau-père veut le jeter dans les flammes. Et Patrick veut se dégager. Les flammes grandissent autour d'eux de plus en plus. Ils suffoquent à cause de la fumée. Ils se battent autour des flammes. Une peine terrible a envahi les deux hommes. Au bout d'un moment, épuisés tous deux, en sueur, le père a une seconde de faiblesse. Le fils en profite pour se dégager de son étreinte et de le pousser dans les flammes. Ah ! Puis, court au milieu des flammes. Il court au milieu des flammes et finit par sortir. Il sort de la grange. Dehors, les paysans sont là, qui le voient sortir. Il a les vêtements en flammes. On lui jette une couverture pour lui étouffer les flammes. Il n'a rien. Puis, les paysans, durant une partie de la nuit, éteignent l'incendie.
Dépêchez, dépêchez !
Allez, allez, plus vite ! Mais allez, allez ! Continuez ! Copez, copez ! Non, allez chercher Madame Clarissa ! Qu'est-ce qu'elle va y faire ? Crachez dessus pour l'éteindre ! Vite !
Le lendemain, on a retrouvé le corps du beau-père calciné. Les gendarmes sont venus interroger les gens. Personne ne parle qu'ils ont vu sortir le fils de la grange. Ils ne veulent pas d'histoire et savent que maintenant le fils sera le maître. Puis un gendarme va voir les Thibault qui n'ont rien à dire. Et vont voir Patrick. Patrick est revenu de sa nuit. Le gendarme est un brave homme, gros, moustache noire. Patrick le reçoit dans sa chambre et le fait asseoir sur un banc.
Qui êtes-vous ?
Je suis le fils de la comtesse, conçu d'un premier mariage.
Et pourquoi ne vivez-vous pas au château ?
Parce que mon beau-père me déteste, il ne pouvait pas me voir. C'est moi qui l'ai tué. Le gendarme est surpris. Pourquoi s'est-il dénoncé ? Parce qu'il se dit au-dessus des autres et veut assumer ses actes. Les gendarmes l'ont mené à la gendarmerie, ont décidé de faire une enquête sur lui et cette affaire. Les paysans sont interrogés, et Thibault aussi. Le père Thibault dit aux gendarmes,
« Sa mère nous l'a confié, car s'il n'est pas normal, un peu simplet, idiot. Ne fais pas trop attention à ce qu'il dit. C'est un pauvre garçon travailleur. Il est incapable de faire du mal. C'est dans sa tête que ça a dû se passer. Sa mère est morte il y a peu et il a dû croire que c'était le père qui l'avait fait mourir. C'est imaginer une vengeance.
Les gens disent tous à peu près la même chose. Il est laissé en prison dans la ville voisine. Un inspecteur vient le voir à la prison. C'est un petit homme chauve. Ils sont assis tous deux à une table.
Vous vous accusez toujours du crime de votre beau-père.
Oui.
Racontez-moi ce qui s'est passé.
Patrick lui dit tout. L'inspecteur lui dit,
si votre beau-père vous a attaqué, c'est de la légitime défense. Alors cela change tout.
Non, parce que cela faisait des années que je voulais le tuer. Je le déteste, le hais. C'est lui qui a tué le régisseur et ma mère. Je suis heureux qu'il soit mort. Vous m'entendez ? Je suis heureux. Il m'a fait vivre toute ma jeunesse comme un misérable. J'ai subi les pires humiliations. Je le déteste. C'est la première fois après tant d'années qu'il dit cela à quelqu'un, que c'est plus fort que lui. La haine aux yeux. Il m'a humilié. C'est lui qui a tué ma mère. Lui. Il tremble de tout son corps. L'inspecteur le quitte sans rien dire. Patrick lui crie, je me fiche de la prison. Je suis libre maintenant. Sans lui, je suis libre. Je ne suis plus un idiot. Non. Le procureur est à son bureau, un homme de 60 ans, à cheveux blancs, maigre. Il lit le dossier. Réfléchit à haute voix en tournant les pages.
Famille respectable du côté de la mère et du père de l'accusé. Le fils porte le nom d'un père de France. Par contre, son beau-père et d'une famille plus modeste, et on peut même dire pauvre. Mais le beau-père est bien vu par son entourage, les paysans, les paroissiens. La mère est morte d'un accident. Femme respectable, ne sortant pas de chez elle les derniers temps.
tourne encore des pages. Et réfléchit à haute voix.
Tout le monde est témoin que le fils aîné de la comtesse est débile et c'est par charité qu'on l'a laissé dans le domaine. Mais ça devait être difficile et peut-être il devait être violent vis-à-vis de son beau-père. On a dû l'éloigner du château et le donner aux soins de braves gens. Il a dû avoir une illumination. Penser que son beau-père, qu'il détestait, avait tué sa mère. Ces enfants débiles sont très attachés à leur mère. Qu'en faire? Il est irresponsable. Mettons-le à Charenton. J'ai un professeur qui serait très heureux de l'avoir pour ses expériences.
Il y resta 20 ans. Sa vie a été un enfer. Il mourut vieilli avant l'âge et débile pour de vrai. Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Sapho, 19e, dont c'était la 6e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.